pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, dans l'oreille aux racines des
directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview.
Alors, bienvenue à l'émission Les Racines des Sources. On apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité est un artiste qui, tout comme les fleurs qu'elle cultive dans son jardin, ne se fane point. Accueillez Madame Lisette Enfous.
Bonsoir Lisette.
Bonsoir.
Comme je suis content de te rencontrer ce soir.
Oui, mon bel ami.
Oui. Ça fait combien de temps, toi, tu vis à Saint-Adrien?
Ça fait 49 ans.
49 ans.
Oui.
Puis, bien sûr, t'es pas née ici.
Non, je suis née à Montréal.
À Montréal, dans
quel coin? Oui, je suis née sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Parthenay, dans la maison de ma grand-mère. Ma grand-mère avait fait bâtir deux maisons à logement, puis tous ses enfants habitaient dans chacun des logements, puis des beaux-frères, puis des...
Fait que toute la famille vivait là?
Toute la famille, on vivait comme un clan, là.
Toutes les Enfous?
Non, c'était pas les Enfous, c'était du côté de ma mère, c'était les Vachons.
Ah, les Vachons.
Oui. Et puis, mon grand-père était luthier.
Ah, mon Dieu.
Et puis, ma grand-mère s'occupait d'une imprimerie qu'ils avaient derrière la maison. Et puis,
Fait que tu t'es baigné assez rapidement dans le monde artistique, là,
Oui, parce que d'autant plus que ma mère, elle avait fait des études de piano au Conservatoire Royal de Musique.
Ah, mon Dieu.
D'école supérieure de musique. Et puis, elle avait d'ailleurs gagné deux fois la médaille d'or du conservatoire. Elle donnait des concerts. Puis, elle nous enseignait le piano très jeune. Et puis, mon père était luthier. Et c'est lui qui a pris la relève de la belle famille, les Vachons. Et puis, il a dit, moi aussi, je suis capable de faire un violon. Puis, finalement, il en a fait 36 dans sa vie. Et puis, ça nous a amené à recevoir beaucoup de gens chez nous.
Des artistes
d'orchestre symphonique qui venaient faire réparer leur violon ou acheter un violon.
Oui. Puis là, on parle de quelles années à peu près? On est où?
Ah, mon Dieu! Là? Quand j'étais toute petite, j'ai pas tellement vu mon père avec les violons. J'étais trop petite.
Ouais.
Mais ils avaient aussi... Ma mère était aussi couturière. Mais j'entendais beaucoup ma mère jouer du piano à la maison. Et je me rappelle des sentiments que j'avais quand j'étais jeune, comment je me trouvais privilégiée d'entendre de la si belle musique à chaque jour.
Oui.
Et puis, mes parents... Mon père était aussi tailleur. Enfin, il travaillait de jour. Il était luthier le soir, en fait.
C'était des entrepreneurs.
Oui, c'est des entrepreneurs. Et puis, ils avaient une petite une entreprise de vêtements pour enfants. Et alors, dans la maison, il y avait plein de robes. Puis, maman faisait du smoking, qui s'appelle.
Ah,
ils faisaient des petits paniers, des petites... C'est une sorte de broderie. Et puis, elle avait des employés qui faisaient... Il y en avait qui faisaient les collets, d'autres les petites manches. Et puis, livrait mon père taillait les vêtements, puis vendait ça dans des boutiques.
Puis, il vivait assez bien de ça,
avec le métier de mon père, qui était tailleur, il vivait bien, assez bien, pour acheter un terrain au lac Labelle, dans les Laurentides, où ma grand-mère est arrivée de France, parce que du côté de mon père, c'est des Français.
Ah.
D'ailleurs, notre nom, c'était pas Enfous, c'était Enfosso. C'était de descendance italienne. Et après la guerre, les Italiens, ils étaient du côté des Allemands. Et c'était pas très bien vu parce qu'on était reconnus comme
des
ennemis. C'était mes tantes, tout ça, qui ont décidé de changer le nom. Et puis, ils étaient reconnus comme des Italiens qui sentaient l'ail. Et humoristiquement, aujourd'hui, je produis de l'ail, une grande d'ail. Et puis, mon ail a la particularité qu'elle est très digestive, qu'elle laisse pas d'haleine.
Ah ben, alors, c'est drôle. Ah ben, c'est particulier.
Alors, c'est ça.
Fait qu'il y avait un chalet au lac Labelle. Oui, fait que là, vous alliez là.
Alors, ma grand-mère est arrivée de France rejoindre son père, parce que souvent, c'était le papa qui arrivait. C'était une dernière des étapes de la colonisation du curé Labelle. Et puis, mon arrière-grand-père, en fait, un ancêtre est arrivé, le père de ma grand-mère est arrivé à Labelle. Il y a eu une terre de roche.
Ben oui,
c'était la misère.
Ben oui.
Puis ma grand-mère est venue le rejoindre à Labelle.
Oui.
Elle a vécu quelque temps et puis après ça, elle est allée s'installer à Montréal. Elle a rencontré mon grand-père. Ils se sont mariés, et ainsi de suite.
Mais il y a toujours eu le lien avec les Laurentides.
Oui, parce que j'ai encore le chalet que mon père a construit en 42. Il m'a laissé en héritage. Et puis, je vais beaucoup l'été. C'est mes racines. Parce que d'ailleurs, tous les cousins, les oncles, ils avaient des fermes là-bas. Et puis, on allait chercher nos légumes, on allait chercher les framboises, on allait cueillir aussi des framboises sur leur terre, les bleuets. Et puis notre lait, et puis on allait chercher de l'ail.
Fait que vous passiez vos étés là. Aussitôt que l'école était finie.
Oui, aussitôt que l'école terminait, bien c'était, il y avait beaucoup de familles comme ça au Québec. Les mamans travaillaient pas, c'était l'homme qui travaillait. Alors les mamans passaient l'été à la campagne. C'était le cas de ma famille, de la fin des classes jusqu'à la fin du travail. On recommençait les classes assez tard à ce moment-là. Je pense que c'était au moins le 7 septembre.
Oui, oui,
alors, on passait un bel été.
Il y a un lac, puis là,
oui,
c'est
oui,
le
nautique, oui.
Puis les cousines.
Oui, on a la pêche. Puis au début, mes parents, ma mère, elle installait des lignes dormantes. C'était, ouais. C'était pas permis, mais on partait très tôt à 5 heures le matin. Puis elle installait sa langue, sa ligne, puis on... Elle nous ramenait du gros poisson pour manger beaucoup de poisson.
Fait que là, vous passiez vos étés là-bas, mais t'as quand même fait tes études à Montréal. T'as vécu
oui,
à Montréal.
Oui, je revenais à Montréal et puis je faisais mes études. J'ai fait mes études primaires dans mon coin, à l'école publique.
Ouais.
Et avec les religieuses, les sœurs Jésus-Marie.
Oh, OK.
Et puis c'était très catholique. Et puis nous, on n'était pas très catholiques. D'ailleurs... Ma mère était musicienne. Et puis, mes parents faisaient beaucoup d'échanges. Puis, ma mère, elle était accompagnatrice de professeurs des grands ballets canadiens. Puis, nous, on avait tous nos cours gratuits. Et puis, tous nos samedis, on avait des cours de ballet. Des cours de mercredi, on avait nos cours de ballet. Et puis, c'était très mal vu du point de vue religieux, du point de vue des religieuses, qui, nous ont fait de la misère à ma sœur et à moi. Puis quand c'était le mois de Marie, il fallait aller à l'église. Nous, on avait nos cours. Alors, notre père nous avait signé un papier comme quoi il n'était pas question qu'on aille à l'église, à la messe après l'école. Et puis, on a été punis pour ça.
Vous étiez un peu underground.
Oui, on était rebelles. Puis d'ailleurs, j'ai fait des petits coups méchants aux religieuses parce qu'ils m'en voulaient. Pour rien, parce que je parlais, parce que je m'exprimais.
Il ne
fallait pas, à l'école dans ce temps-là, il ne fallait pas bouger de notre pupitre, puis il ne fallait pas parler. Alors, un jour, il m'envoyait dans la bibliothèque, et puis moi, un jour, je me suis dit, je vais apporter mes petits souliers de balai le matin, je vais les mettre sur le coin. Je l'ai fait. Et puis là, la religieuse, elle m'a vue. Elle m'a envoyée chez la directrice. Puis la directrice, mais elle avait écrit que je faisais du ballet. Elle avait écrit B-A-L-A-I-L-A-I-L-A-I.
Ah, comme le...
Alors, la directrice, quand je suis arrivée, j'ai passé le petit mot, mais je l'avais vu, elle me l'avait montré, la sœur. Et puis la directrice, elle savait... Elle dit, tu fais du ballet, puis elle était vraiment...
Bravo!
Elle savait pas quoi te dire, mais elle m'a vraiment pas punie. Ouais, mais oui. C'est correct.
C'est correct, continue.
C'était la bonne sœur qui s'était fait prendre.
Ça, c'était-tu au primaire?
C'était au primaire.
OK, puis après le secondaire?
Bien, après ça, mes parents, ils ont décidé qu'ils nous menaient la vie trop dure. Les bonnes sœurs Jésus-Marie, puis elles nous envoyaient dans un collège privé... chez les Sœurs Sainte-Anne. Et puis là, moi, je faisais... À 8 ans, mes parents faisaient prendre des cours de chant, des cours d'art dramatique, des chants de l'opéra, là. Presque de l'opéra, là, des chants classiques. Et puis, des cours d'art dramatique, je récitais du Molière à 8 ans. J'ai même un disque que j'ai encore.
De cette époque-là?
De cette époque-là qu'on avait enregistré. Et puis, ben c'est ça, ce que je veux dire. Il se faisait beaucoup d'échanges. Et puis, il y avait le piano, le ballet, le dessin.
Il était plus ouvert.
Oui, là. Puis on avait fait, au Lac Labelle d'ailleurs, on avait fait un petit spectacle sur la terrasse. Maman, elle avait descendu son piano sur la terrasse. Puis tous les spectateurs étaient venus en bateau. Puis on avait des spots parce que mon oncle, Noël, en fausse, il était costumier. Puis il y avait des spots de couleurs. Puis il nous avait tout installé. Puis on avait fait un spectacle sur la terrasse.
Wow!
Alors, puis on a toujours continué à faire du ballet. J'en ai fait longtemps. Jusqu'à ce que j'ai eu un accident un jour qui m'a limité. Puis,
fait que là, dans ce collège-là, c'était plus relax.
Oui. J'ai participé.
C'était-tu encore les
sœurs? Oui, mais c'était les sœurs Sainte-Anne, puis c'était un collège privé beaucoup plus ouvert. Okay. Puis je jouais dans des pièces de théâtre. Puis une anecdote qui est spéciale, parce que j'avais joué dans une pièce de Langueyran qu'on avait... Et puis j'arrivais avec une carabine, mais j'avais une vraie carabine que mon père m'avait passée. Si vous voulez que je parte, vous allez tous partir, puis je pointais tout le monde avec ma carabine. Bon, aujourd'hui, hein, on sait que...
Mon Dieu, ça passerait plus.
Il faut dire les temps, hein, ont changé.
Fait que là, t'as fait ton école au complet, là, jusqu'en secondaire 5
Oui, puis après ça, j'ai fait une belle lettre spéciale... à la même école, parce qu'on pouvait passer... Si tu avais des bonnes notes, tu pouvais passer au classique avec du latin, tout ça. Et puis, j'ai fait cette année-là. Puis après ça, je me suis... comme j'avais fait... je m'étais créé beaucoup de plaisir à faire du théâtre, à jouer du théâtre avec le collège des Udistes, le collège de garçons, où on faisait des pièces ensemble à l'école. Mmh. Et puis, là, j'ai eu le goût d'aller plus loin. Et puis, je me suis entraînée avec un prof pour passer l'audition au conservatoire d'art dramatique.
Ah, oui. Ah,
j'ai passé l'audition à l'École nationale. J'ai été acceptée aux deux, mais au conservatoire, c'était gratuit. Ah. Alors, comme mon père n'était pas tout à fait d'accord que j'aille en théâtre...
Et pourtant, il était quand même ouvert artistiquement.
Oui, mais il voulait protéger ses filles.
Plus des professions...
Oui, malgré qu'il n'était pas catholique, il était très puritain. Là, puis il n'était pas question qu'un homme baisse sa fille avant le mariage. C'était comme ça à l'époque.
Oui. Okay, c'était quand même assez strict, même si c'était très artistique. Puis même si ta mère était pianiste et tout ça.
C'était resté dans la mentalité.
Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture là, pour que tu puisses faire une carrière là, de comédienne ou de... OK. Fait que comment que ça s'est passé? Tu l'as fait pareil?
Oui, on m'en a pas empêché quand même. Là, je l'ai fait. Et puis après ça, après 2 ans au conservatoire, je me suis mariée avec un des comédiens du conservatoire. Ah. On est allé vivre à l'île Perrault parce que j'étais toujours attirée par la campagne. J'aimais beaucoup la campagne.
Mais vu que tu avais passé toute ton enfance en
campagne, oui, c'est ça. Que... Alors, on a vécu dans une maison de 300 ans, un vieux moulin à côté, à l'île Perrault, Pointe-du-Moulin. C'était une place magnifique. Mm-hmm. Et puis, on a passé un an, on n'avait pas beaucoup de sous, on ne travaillait pas beaucoup, on pêchait. Puis on vivait de pêche, puis on échangeait pour
avoir de la nourriture. À l'île Perrault, là. À l'île Perrault qu'on connaît aujourd'hui. Sur la pointe, là.
Oui. J'étais...
Wow, vous pêchiez là.
Oui, qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que je veux dire, mais je savais pas que ça pouvait être pollué à ce moment-là. Mais ça, j'ai appris plus tard.
Okay. Mais c'est à peu près dans quelle année, justement, là? T'es où,
à peu près? 66... Non. Moi, je suis mariée en 66, en 68.
Puis là, l'île Perrault, c'était sauvage?
C'est plus comme c'était, oui. Puis on était sur une pointe très sauvage, c'est vraiment... Wow. C'est un cul-de-sac, là. C'est vraiment des gros arbres, c'était magnifique.
OK.
C'est une rencontre du lac Saint-Louis et du fleuve, c'était très beau.
C'est beau, hein? OK, fait que là, ensuite, as-tu continué?
Après ça, l'hiver était très dur. L'eau gelait à côté de nous autres, dans la maison. C'était une vieille maison de pierre, elle n'avait pas été habitée depuis 100 ans. C'est parce qu'on aimait la nature, qu'on voulait être là. Il y avait des canards, plein d'oiseaux sauvages qui se rencontraient. Alors, on est retourné à Montréal, il fallait travailler aussi. Alors, j'ai fait beaucoup de théâtre amateur. jusqu'à ce que, finalement, je sois engagée la même année par Radio-Québec pour faire les Oraliens.
Puis ça, c'est quoi, cette histoire-là? C'était-tu nouveau? C'était-tu un nouveau
concept? C'était la première série de Radio-Québec.
La première série de Radio-Québec.
Oui. Ben, et puis, c'était diffusé à Radio-Canada.
Ah oui, aussi?
Oui. Et puis... ça a duré 2 ans de tournage, à tous les jours du matin au soir. On était en studio à 7 heures le matin jusqu'à 6 heures du soir.
Puis à cette époque-là, y avait-tu des scripteurs?
Oui, en fait, c'était une émission éducative. Alors, c'était fait... y avait comme 15 mots qu'il fallait qu'ils entrent dans la conversation pour apprendre à parler, dire le mot juste, pas d'anglicisme. Un sparadrap, je ne sais pas. Ouais. Alors, on essayait d'intégrer. C'était pas extraordinaire comme texte. C'était plus éducatif.
Mais aviez-vous un cadre précis, là? Vous n'aviez pas le choix de dire telle chose?
Ah, mais oui, on avait nos textes, c'était très précis. Puis même les A ouverts, les A fermés, c'était très précis. C'était encore à l'âge là, du théâtre classique, d'ailleurs. À cette époque-là, je faisais partie aussi d'un groupe qui s'appelait le Grand Cirque Ordinaire. Je n'étais pas totalement dedans. Mon mari faisait partie de ce groupe-là. C'est un théâtre assez révolutionnaire, social, politique.
Et plus éclaté.
Oui, plus éclaté. D'ailleurs, en 68, quand j'ai terminé, c'était le temps des grèves, puis...
Là aussi, ça brassait.
Oui, oui, oui. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas beaucoup de locaux. On était trop nombreux. On passait pas beaucoup de temps. C'était juste du classique, quasiment. Il n'y avait pas d'improvisation à ce moment-là. Alors, ce groupe-là, il y a du théâtre, c'était de l'improvisation. Alors, ça me touchait beaucoup. Puis, j'avais pas plus le goût de faire du théâtre classique.
Là, c'est ça, il y a eu comme un clash.
Avait le goût de dire des choses qui nous appartenaient plus.
C'est proche, là, parce que c'est ça, avant, c'était plus classique. Même le théâtre était plus classique. Puis là, à un moment donné, les années Tremblay et compagnie, on s'est exprimé plus en joual et tout ça. Puis ça, c'est...
Mais ça devait pas... Alors, avant cette période-là, là, concernant les Oraliens, il fallait vraiment avoir un français international, là. Et puis...
Écoutait ça, là, je te l'ai dit souvent. Nous, on est à l'école, puis on...
Toutes les écoles.
Oui.
En première année, là. Il y avait même des livres, des cahiers pour l'enfant. Oui. Ça passait 15 ans, la télévision.
15 ans après?
Oui. Mais ils ont profité beaucoup des comédiens. Parce qu'on n'a pas eu de contrat. Il n'y avait pas de convention de collective avec l'Union des artistes à ce moment-là. Ah. Puis ils nous avaient dit, quand la convention se fera, vous serez réajustés avec les per diem puis tous les droits de réplique, de reproduction. Et puis, finalement, ça s'est fait 3 mois après la fin du contrat. Et puis, c'était écrit qu'il fallait que le contrat soit en vigueur pour qu'on ait droit, ces droits-là. Oui. Alors, ils ont profité de ça Alors, ils ont présenté ça sans que...
Vous avez fait ça pendant 2 ans, puis ça a joué après pendant 15 ans. Mon Dieu, à Radio-Québec.
Non, ça, Radio-Canada et Radio-Québec, oui.
Les deux, OK.
Je ne me souviens plus de lesquels, mais ça passait tous les jours.
Ah, fait que tu as fait ça 2 ans, tu as été dans le cirque éclaté un peu.
Oui, j'ai joué d'un film avec eux et tout ça. Et puis tout de suite après les Oraliens, là, ça commençait à brasser avec... mon mari, et puis parce que c'était comme des psychodrames qui se jouaient à chaque soir dans les improvisations, et ça amenait beaucoup de bouleversements. Là, puis le féminisme commençait, alors beaucoup de choses éclataient, alors on en a subi les contre-coups, et puis je suis partie en Martinique.
En Martinique.
C'était...
Le monde ne sortait pas beaucoup.
Non, mais c'est ça, on était... c'était pas moi directement, mais Charles Bois, elle est là, puis c'était leur grand ami chez Gougou, puis Dinette, qui s'appelait Les Copettes. Puis eux, ils habitaient en face de Fort-de-France. Puis tous les dimanches, des musiciens de Fort-de-France venaient chez Les Copettes, puis ils faisaient de la musique. Oh. Puis on avait une petite maison à côté, puis on était toujours invités à souper à faire de la musique avec eux.
Okay, c'était ça. Comme un lieu de rassemblement, ouais, ouais. Underground.
Et, alors, un séjour, oui. Okay. Et puis, un séjour, un dîner, elle dit, ah, je vais t'amener à visiter l'île. Et puis là, ben, mon bon ami a un taxi, puis il va t'amener. Finalement, ben, on est allé, c'était magnifique, la journée. Le retour était moins drôle. À un moment donné, le conducteur, il allait super vite, puis j'ai dit, s'il vous plaît, pouvez-vous ralentir votre... Je suis inquiète qu'on ait un accident. Et là, il était un peu ivre parce qu'il prenait beaucoup de rhum. Et puis, il a dit, mais non, pas question, j'ai jamais eu d'accident, là. Et puis, même pas une minute après, il a perdu le contrôle. Et puis, on a eu un gros accident. J'ai passé 2 mois, j'étais cassée partout.
Oh, non. Ah, ben voyons donc.
Mais je m'en suis remise, puis j'étais supposée... On m'a dit, oh, quand tu vas être plus vieille, tu vas avoir des problèmes, tu ne pourras pas marcher, tu ne pourras pas si. Finalement, ben, je fais plein de choses que.
Puis là, tu as eu une grosse accident.
Mes amis ne sont pas capables de faire à mon âge.
Ben, oui, tu as été deux ans, là-bas, une couple de mois, à l'hôpital et tout ça, là. Oh mon Dieu, puis là, tu étais cassé, le bassin, genre, les jambes, tout ça, là. OK, fait que ben, là, ça change.
Des choses. Après ça change beaucoup de choses. Après ça, ça allait pas très bien avec mon mari dans ce temps-là. Puis là, il est venu me rejoindre à l'hôpital. Il dit, oh, je vais faire prendre soin de toi, je vais être fin maintenant, puis on va avoir des enfants. Mais pour moi, j'étais passée ailleurs parce que l'accident m'avait amené à ailleurs, même amener ailleurs, à une place où j'avais besoin d'être, où je pouvais être plus moi-même. Okay. C'est ça.
Qu'est-ce qui est arrivé par la suite?
Par la suite, j'ai reçu un montant d'argent, d'assurance.
Ah.
Et puis, je me suis acheté un Buzz Volkswagen que j'ai tout équipé. Puis, je suis partie pour la Californie!
Ah,
California!
Là, on est dans les années...
72.
OK, ça va.
Là, j'avais une chienne enceinte avec moi.
Okay.
Je me suis dit, bon, j'appelle un ami qui habitait au Colorado, puis je dis, j'ai ma chienne, puis c'était la chienne de sa chienne que j'avais. Ouais. Là, il allait avoir des petits. Alors, la sienne allait devenir grand-maman, alors on pouvait aller chez la voir pour l'assistance. Alors, il a dit, ben oui, viens-t'en, il n'y a pas de problème. Alors, je suis arrivée là, puis la première personne que j'ai vue dans la cuisine qui jouait de l'auto-harpe, c'était un bel homme, un beau grand blond, qui s'appelait John.
Ah, et puis, c'est là que ça s'est passé.
Ça s'est passé, puis ça fait 50 ans, ça fait 50 ans le mois dernier qu'on est ensemble.
Wow, magnifique, magnifique. Wow. Fait que là, vous vous retrouvez ensemble, puis là, toi, tu dis, bon, ben
je suis restée là, on parlait pas la même langue. Alors, même, j'étais très sollicitée à apprendre l'anglais, parce que j'étais sur place en immersion, mais j'étais amoureuse, alors j'avais mon petit dictionnaire, mes règles de grammaire, puis je les apprenais. Et puis, finalement, j'ai proposé à John de venir au Québec, après un bout de temps, parce que j'étais assez... attaché au Québec.
Ouais.
Alors, j'ai voulu revenir. Et puis, là, on est resté un bout de temps à Montréal, pas très longtemps. Puis, on est venu finalement à la campagne ici, à la suite d'une invitation. Et puis, c'était le coup de foudre aussi.
Parce qu'il y avait déjà des communes ici, c'est ça?
Oui, il y avait une commune. Puis, il y avait justement un gars du Grand Cirque qui venait déjà. Alors... c'est comme ça que on est venu faire les sucres.
Okay.
On restait dans notre bus.
Okay.
Puis finalement, on a appris que c'était en vente. Après avoir marché la vallée, on trouvait ça tellement beau. Là, on s'est dit, on va aller voir le cultivateur. Peut-être qu'il pourrait nous vendre un arbre, quelque chose pour se construire une petite maison.
Mm-hmm.
Puis finalement, il dit, non, il dit, je ne vends pas un arbre. Il dit, tout à vendre. Oh. On a dit, comment grand, vous avez 300 arcs.
300 arcs?
300 arcs! C'était beaucoup, c'est un peu trop. Mais là, on lui a demandé le prix,
ouais.
C'est combien?
C'est combien?
17 000 $ Avec la maison, les
est-ce
grands.
Est-ce que c'était gros à cette époque-là ou c'était comme...
Ben, j'avais les sous pour payer, c'est moi qui ai acheté finalement.
Oui, parce que tu avais l'assurance.
Capital.
Mais c'était-tu très élevé ou c'était le prix normal?
Ben, pour ce qui est de John, qui est mon conjoint, il trouvait ça vraiment... Comparé au prix des États aux États-Unis, c'était vraiment bien.
300 acres avec une maison, une grange.
Oui, oui, c'était vraiment pas cher.
Wow, OK. Fait que, fait que là, bon, on s'installe à Saint-Adrien.
On s'installe à Saint-Adrien. Puis moi, déjà, je faisais du tissage parce que j'avais été inspirée de ma grand-mère qui avait été bergère en France. Puis qui faisait du fromage, puis qui filait la laine. Et puis ça m'avait toujours... j'avais beaucoup aimé ma grand-mère, puis ça m'avait toujours touchée. Puis j'avais pris un cours de tissage à Montréal.
Okay.
Et puis, alors là, on a eu des chèvres. Et puis, pendant une quinzaine d'années. Et puis moi, j'achetais la laine de mouton, puis je tissais la laine de mouton, j'enfilais.
Ah, ben, ouais,
et puis j'ai fait pas mal de productions. On faisait les marchés, l'artisan.
Okay.
Et puis un jour, ben, on trouvait, ce qui était pénible avec les chèvres, c'est qu'il fallait vendre les mâles. Hein?
Ouais, parce que... Ouais. Mm.
Fallait garder seulement les femelles. Alors, je trouvais ça difficile de les faire tuer parce que moi, j'étais comme leur sage-femme. J'ai même délivré les bébés. Il
avait combien?
J'ai mettais dans le four, dans le bois, quand ils étaient trop faibles.
Ouais. Très attachés.
Puis j'essayais de les soigner avec de la médecine naturelle. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Un jour, il y avait une chef qui avait accouché, puis le bébé, il était presque mort, il bougeait pas par terre. Alors, on fait venir le vétérinaire, on dit, puis la maman, elle est pas bien. Là, on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Pouvez-vous le sauver? Il donne une injection, puis finalement, ça marchait pas. Fait que je me rappelais de mon père qui me disait, le brandy, ça sauve des vies. Faut toujours, quand on... Nous autres, chez nous, il y avait toujours une bouteille de brandy quand on avait nos périodes de
femmes. Ah, c'est cool.
Ils me donnaient du brandy. Puis, alors, j'ai dit, je vais aller chercher ma bouteille de brandy. J'ai cherché ma bouteille de brandy, j'ai pris un compte-goutte, j'en ai mis sur la langue, la petite chèvre. Elle fait... Le vétérinaire, il me regarde. J'ai dit, attends. Là, j'en prends une autre. Je donne une petite goutte. Elle se lève sur ses quatre pattes. Elle se met à courir. Et t'as une heure, il dit, bon, ben, il va falloir que je transporte avec moi, je change ma médecine, que je transporte du brindé avec moi. Il était vraiment... Il en venait pas. Mon père avait raison. Mais c'est pas une recommandation.
Ah, oh, puis après, elle a survécu.
Oui, oui, oui.
Oh, mon Dieu, elle demandait pas du brindé tous les soirs.
Brindé! Même encore, des fois, ça m'arrive de sauver des oiseaux. Ils se font frapper, puis ça m'est arrivé, je leur donne une petite goutte de brandy.
Ah, ben oui. Ah, ben c'est intéressant. Fait que là,
c'est bon pour le cœur.
Vous avez tissé, vous avez été dans des...
Oui, c'est ça. Fait...
Mais là,
alors, un jour...
ta carrière d'artiste...
Oui, c'est ça, je me disais...
Tu l'avais mis à côté.
Je l'avais mis de côté, mais dans mon cœur, je me disais, je vais revenir, mais ce que j'aimais le plus, c'était avec les enfants, direct. Puis aussi faire mes propres affaires. Fait que quand on... avec les chèvres laitières, quand on a décidé de changer de chèvre, on a décidé d'avoir des chèvres angora, parce que ça donne la laine, puis fait continuer... C'est alors cool. Là, c'était toute une autre histoire à transformer parce que c'était pas comme la laine de mouton.
Mm-hmm.
Même les industries faisaient pas ça au Québec. Alors, on est parti avec la belle-mère puis tous les enfants à l'île du Prince-Édouard pour la faire laver. Il fallait aller à une autre place dans le Québec pour la faire garder. Il y avait 6-7 places où on allait finalement pour la faire transformer. Mais en attendant, moi, je filais. Puis je faisais des châles, des manteaux.
C'était vraiment le retour à la terre avec les jardins et tout.
Je faisais j'ai toujours fait... Depuis que je suis née, mon père, il adorait jardiner. Ah. Ma mère, elle avait des roses pleines partout au lac Labelle. Et puis mon père, quand il arrivait le vendredi soir, puis que les autres maris arrivaient, on apportait des bouquets de roses aux voisins, puis on en mettait partout dans la maison chez nous.
Wow. Mais le métier te manquait pas à cette époque-là?
Oui, mais j'étais tellement occupée. On travaillait tellement fort, puis j'ai eu 3 enfants. Puis... Mais quand mon plus jeune, Zoé, il a eu 5 ans, c'était une période charnière où mon mari aussi s'est dit, bon, mais là, il faut que je fasse autre chose.
Il y avait comme un... Ouais,
et puis on est allé plus... je voulais pas changer complètement. Alors, je suis allée faire un certificat en créativité à l'Université de Sherbrooke pour travailler avec des groupes de classe. Et puis, du même temps, j'ai fait un projet avec ma sœur Ginette, qui est écrivaine pour la jeunesse, qui est très connue d'ailleurs, Ginette Enfousse. Et puis, j'ai fait des activités d'art dramatique pour jumeler ça avec des activités d'art plastique. Alors, ça rejoignait le français, les arts plastiques, la danse, la musique. Théo Bush a fait la musique. Ah, il y avait même une petite toune que Richard Desjardins avait faite dedans. Parce qu'il était ami de... Puis, finalement, on a présenté ça. Puis, c'est comme ça que j'ai pris place dans les écoles.
Tu as retourné sur la scène.
Compte tenu que j'avais fait des oraliens, évidemment, ça m'avait...
Le conservatoire et tout, quand même. OK, fait que là, tu as fait des écoles.
Oui, j'en ai fait beaucoup. Là, j'ai fait plus de... J'ai réalisé que j'avais fait plus que 2000 rencontres. 2000 spectacles dans les écoles.
2000 spectacles dans des écoles.
Oui, j'ai un peu partout. Je suis allée jusqu'à Chapay, j'ai Bougamo, j'en ai même fait à San Diego, à San Francisco.
Wow!
Parce que je faisais des écoles internationales aussi.
Wow! Okay.
Alors, je me suis promenée, puis finalement, j'ai fait mes derniers, il y a quelques années, dans la classe de mon petit-fils. Puis j'ai vraiment senti que c'était le dernier. C'était vraiment spécial. Parce que là, je me traînais par terre avec les enfants. Là, j'étais pas... Je me mettais avec eux. Oui. Mais en tout cas, j'avais toute une bande sonore. Et puis, c'était vraiment bien. J'apportais beaucoup de bonheur aux enfants. Puis je m'en apportais.
Ça a occupé une bonne quinzaine d'années de ta vie.
20 ans, je pense.
20 ans, hein?
Oui.
T'étais 20 ans sur la route. Tu partais le mardi.
Quand John partait pas, c'était moi qui partais. Et puis, ce qui était bien, parce que moi, je m'occupais beaucoup des enfants quand John partait, puis avant ça, John était beaucoup à travailler à l'extérieur, au bois, ou assis à ça. Alors, les enfants disaient toujours « Maman, maman, maman! » Puis là, ben je revenais, puis ils disaient « Papa, papa, papa! » C'était un bon échange.
Fait que là, t'as eu 3 enfants. Est-ce qu'ils vivent ici?
Il y avait 2 maisons sur la terre, parce que moi, je me trouvais à avoir 2 terres qui avaient été jumelées là, par le propriétaire qui avait acheté l'autre terre, qui était une érablière. Il y avait une maison. Alors, un jour, elle a été mise en vente. On l'a achetée, on l'a rénovée. Mon fils l'a rénovée avec des amis. Et puis, on l'a loué un bout de temps. Puis, ma fille, qui était en Europe pendant 15 ans, elle vivait là. Et puis... elle est revenue monoparentale avec un petit bébé. Alors, la maison, c'était parfait pour elle. Elle est encore là. Puis mon autre fils, il n'est pas très loin. C'est assez fortunat, mais il travaille beaucoup chez nous. Puis c'est lui qui a pris la relève de l'ail parce qu'on a produit beaucoup d'ail. On est allé jusqu'à 60 000 plants d'ail quand même.
60 000 plants.
Là, on réduit parce que maintenant, on fait beaucoup de bois. Là, on fait des...
Puis l'ail, vous l'avez vendu un peu partout?
Oui, bien, il y a un gros marché. C'est Fabien qui s'en occupe davantage. Okay. Et puis, il y a un marché à Montréal qui s'appelle Loufa, qui c'est des grosses serres dans le nord de la ville. Et puis, ils nous achètent tout ce qu'on a. Mais on fait des marchés d'artisans aussi, des marchés de festival d'ail à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui marche très bien.
Wow, OK.
Alors, il n'y a pas eu de problème.
Jardins.
Le grand jardin, j'ai toujours eu à cœur de faire mon jardin. Puis d'ailleurs, une des choses qui m'a amenée à vivre à la campagne, c'était les pesticides dans l'alimentation. Quand j'avais lu les quantités de pesticides dans l'alimentation, je me suis dit, moi, si j'ai une famille, je ne les nourrirai pas avec des pesticides.
Wow.
Je vais faire mon jardin, puis il va être biologique, ça va être tout naturel, puis ça va être fait avec amour, puis attention. J'ai vraiment à cœur de faire pousser des choses, mais de tout récolter. C'est rare que je laisse des choses se perdre.
Ça fait 30 ans, là. C'est pas une nouvelle...
50 ans.
Ça fait 50 ans. Fait que t'étais vraiment avant la mode, là, je veux dire.
Oui, oui. Ma mère, elle nous faisait des jus de carottes chez nous. Okay. Ça fait longtemps, okay. Ça, quand on était jeunes. Ma mère était...
Un retour à la terre et une vie bien équilibrée puis une vie vraiment bien remplie.
Oui.
Bien, merci beaucoup.
Ah, Lisette, c'est déjà terminé, mais le temps passe très vite avec toi.
Bien, merci beaucoup. Alors, on revient après avec des questions embêtantes, tout de suite après la pause.
Ah, oh, déjà. Parfait.
Bonjour, mon nom est Conrad Goulet. Je suis cofondateur du Comptoir Saint-Vrac ici à Saint-Adrien. Le Comptoir Saint-Vrac est une épicerie participative et régénérative qui a pour but de revaloriser notre terroir à travers l'alimentation. Le projet, au départ, est parti du besoin d'avoir de l'alimentation saine, écologique, biologique en région, qui était très difficile à avoir à l'époque lorsque j'habitais à Lac-Mégantic. Puis, ce qui en a découlé, c'est un projet assez collectif et communautaire, finalement, parce que ça prend plusieurs personnes pour rendre la tâche facile d'approvisionner autant de bons aliments en région. À travers le temps, le projet a vraiment métamorphosé, surtout avec les gens qui se sont impliqués. En 2019, Pierre Robichaud, un de mes amis, est devenu associé, puis on a pris un envol de haut voltige. Ici à Saint-Adrien, on est parti de littéralement un comptoir Saint-Vrac, dans l'église. À l'époque, on collaborait avec le projet qui était là en émergence, avec Pilou. Puis, après l'arrivée de Pierre, bien, on est déménagé ici à Saint-Adrien, aux quatre coins, pour enfin avoir quelque chose qui est pignon sur rue. Donc, ça a été toute une épreuve, une belle grosse épreuve de passer d'un comptoir à une épicerie physique. Puis, on a eu beaucoup de support de la communauté. Parce qu'il faut dire que notre épicerie, quand on dit qu'elle est participative, bien, on fait participer les membres. Fait que quand tu adhères en tant que membre à l'épicerie, bien, ça te donne accès au libre service qui est 24 heures sur 24, ce qui est vraiment pratique en région. Ça donne aussi accès au choix que vous faites dans l'épicerie. Fait que les ingrédients, c'est vraiment c'est les membres qui les choisissent. Puis aussi, bien, toutes les tâches et responsabilités sont faites par les membres aussi. Donc, ça responsabilise les gens qui viennent acheter chez nous. Puis, on permet de faire des travaux d'échange. Donc, des heures contre la nourriture, même contre des actions dans l'entreprise. Donc, ce que ça crée, c'est que finalement, on est une trentaine de personnes qui gèrent l'épicerie au complet, puis qui permet à chaque jour d'avoir des aliments frais, puis des aliments de la région, parce que notre gros focus aussi, c'est sur les producteurs locaux. On soutient des producteurs locaux, on valorise les producteurs locaux. Puis le but à long terme, c'est vraiment que tous les aliments proviennent de chez nous, qu'ils soient transformés chez nous. Donc, on vous invite à venir nous voir du lundi au samedi. On est ouvert au public. Puis quand vous êtes membre, ben, c'est 7 jours sur 7. Donc, venez nous voir, puis venez goûter ce qui est de bon chez nous.
Alors, toujours à l'émission Les Racines des Sources, et on est avec la question embêtante. Alors, quelle est ta plus grande fierté?
Ma plus grande fierté? J'étais beaucoup à la maison, moi, parce que je faisais du tissage, je m'occupais des enfants, des chefs, tout ça, puis... Les gars chez nous, ils allaient. C'est dans les dernières années, disons les 15 derniers, il y a 15 à peu près. Ils allaient beaucoup au bois, puis tout ça, et puis ils revenaient, puis ils disaient bon, qu'est-ce qu'il y a à manger? Fait que moi, après mes 60 ans, j'ai décidé que j'irais m'acheter une chainsaw. Alors, je me suis acheté une grosse chainsaw, une steel, là, avec tout l'équipement. Je suis partie le matin. Je reviens à ma chainsaw. Et puis, tout le monde était très craintif. Il avait toute peur. Qu'est-ce qui allait m'arriver?
Ouais, parce que c'est pas tellement grand.
Non, c'est ça. Et puis, un jour, je suis allée dans le bois. Et puis, je partais seule. Mais ils voulaient jamais que j'aille bien loin parce qu'ils voulaient que je reste plutôt près de la route. Alors, il y avait une petite érablière qui était toute tassée, là, toute trop, les arbres trop près les uns des autres, plein d'autres. D'autres sortes de branchailles. Fait que je nettoyais, je faisais la petite terre, je nettoyais, puis j'avais travaillé fort tout le matin. J'arrivais à la maison, alors j'ai arrivé, j'ai regardé John. Where's the food?
Ah!
une petite vengeance, donc je suis fière aussi d'avoir pris ma chaîne ça, puis de pouvoir avoir une certaine indépendance.
Puis... Mais merci beaucoup, Lisette. Ah, c'est cette belle phrase, mère de poule. Alors, on va terminer toujours avec la question... pas la question, mais bien sûr, la pensée profonde dans les conscients. La vieillesse embellit tout. Elle a l'effet du soleil couchant dans les beaux arbres d'automne. Alors, merci beaucoup, Lisette Enfousse. Merci, le public. Merci, l'équipe technique. Et on se retrouve à une émission prochaine des Racines des Sources.
Bravo! On lui donne le jeunesse!